C'est sur GTFM 91.2, la page de mouchoirs. Oh 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 oh. Donc Bergerus 1203. Épilogue de l'enquête éternelle. Alors, étant donné qu'une enquête éternelle est plus ou moins infinie, elle possède donc des versions d'épilogue quasi constants. Quoi. Avant de continuer à vous narrer mon voyage à Paris, comme il me plaît de raconter ma vie, je vais revenir à l'aller en train pour y aller justement à Paris. Ou dans le journal Le Monde du 19 février 2025, j'ai conclu depuis un article portant sur le coût élevé de la mort au Royaume-Uni, que la mort, du point de vue matériel, entretient la déchéance humaine. L'argent est derrière tout, en fait, c'est ça que ça veut dire. Et veillez mon enterrement auprès des indigents, je vous prie. Je m'en contrefous. Donc, revenons au voyage, la suite de mon voyage donc, tourne autour de perception de la mort. Hier, vous avez entendu, j'ai fini mon voyage en allant au cimetière Montparnasse, voir Charles Baudelaire notamment, ainsi que j'ai vu Sartre, Simone de Beauvoir, ils sont enterrés ensemble, tous ces deux-là. Et avant, j'avais été au Père-Lachaise, je me suis promené très longtemps là-bas, mais c'était surtout pour voir rien de particulier. Morrison, je l'avais vu il y a très longtemps, donc je n'ai pas cherché à le revoir, mais j'ai vu Merleau-Ponty. Le philosophe français Maurice Merleau-Ponty. On va tout de suite écouter Going Back to the Bridge par Hazy Payton. On va revenir au pont tout de suite. Je m'explique après. Thank you. oui, après différentes lectures, après différents passages un peu partout, on écoute Peyton, Going Back to the Bridge, et on retourne au pont métaphysique, donc, qui unit les côtés, soit la réalité et le côté invisible. Ce dont je vais parler m'a fait l'effet d'une bombe, vraiment. XDDL, Xavier Dupont de Ligonnès. L'enquête. Alors, c'est un livre qui est paru en 2020, des éditions So Lonely, et avec de Pierre Boisson, Maxime Chamou, Sylvain Gouverneur et Thibaut Reiss. J'ai pas regardé qui c'était, mais c'est peut-être des flics. Enfin, je sais pas s'ils ont droit. Bref, passons. Donc, je vais pas vous raconter toute l'enquête, parce que vraiment, lire ça, on croirait lire un polar, quoi. Donc, surtout que quand l'événement a eu lieu de Xavier Dupont de Ligonnès, bon, peut-être qu'il y en a qui ignorent, mais Xavier Dupont de Ligonnès, il avait assassiné sa famille avant de disparaître. Et on n'a jamais retrouvé encore aujourd'hui Xavier Dupont de Ligonnès. Est-il vivant? Est-il mort? Est-il en France? À l'étranger? C'est un mystère. Et bon, je l'ai trouvé d'occasion, comme je vous dis, ce livre. Je n'ai pas cherché à le voir, quoi. Il s'est présenté à moi, disons. Parce que vraiment, ça me tracassait. Surtout que quand c'est arrivé, il habitait à côté de chez moi, quoi. Enfin, pas dans la même rue, bien sûr que non. Mais dans le quartier Saint-Félix, quoi. Bon. Donc, un mystère à comprendre. Moi, ça me pose beaucoup de questions. Donc en fait, ce qui m'intéresse, tu vois, je dis ça à des gens, oh, bah, je comprends pas que tu dis ça, mais non, mais toi tu comprends pas parce que ça t'intéresse pas. Mais je suis pas comme toi, moi, je m'intéresse. Donc je m'intéresse et je découvre qu'en fait, c'est pas, il n'est pas sorti comme ça, quoi. Le mec, bon, de Ligonnès, c'est un noble, un père et une mère élevés en région parisienne. Je crois, je sais plus, il a été un peu partout en France, je ne me rappelle plus partout où il a été, mais son père, bah, il a commencé, lui, il trompait sa femme, son père aussi. Il avait un métier, il dépensait plus d'argent qu'il avait, il avait beaucoup de dettes, il s'est barré avec sa secrétaire en Afrique, en laissant toutes les dettes à sa femme, qui est Geneviève, elle s'appelle, Geneviève Dupont de Ligonnès. Il laisse toutes les dettes et il s'en va. Bon. Alors, sa mère, elle a plus rien. Il faut qu'elle rende, faut qu'elle paye des dettes, donc elle a plus de fric après. Tout le pognon de la famille disparaît, se dissout. Bon, une chose. Et lui, il grandit un peu là-dedans. Donc, c'est dans les gènes, quoi. Déjà. On peut se dire ça. Surtout qu'en plus, sa mère, j'ai appris. Sa mère et une de ses sœurs, il a deux sœurs, Christine et Véronique, et je parle de Christine. Christine et sa mère, donc, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais je pense que si, ont une espèce de secte, les machins de Philadelphie. Bon, c'est inquiétant, le contrôle, manipulation, tu vois, et qui ont d'ailleurs effrayé des policiers au moment des perquisitions, tel qu'il est écrit dans l'enquête. Bon, ok. Et l'autre, Véronique, elle s'est barrée en Afrique. Elle n'a pas voulu rentrer dans tout ça. C'est peut-être la fille la plus saine de la famille. Bon, voilà, pour ses parents. Donc après, lui, il a passé sa vie à essayer de trouver le coup fantastique. Il adore les États-Unis. Donc, bah, comme on voit dans les films, quoi, faire le mec qui part de rien et qui finit milliardaire. Donc il a essayé de faire ça toute sa vie et ça n'a jamais marché. Et pareil, il a emprunté beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup à des amis, à sa famille, et puis il avait plein de dettes, tout ça, tatati, tatata. Ses gosses, il les mettait dans des écoles privées parce que c'était un catholique pratiquant qui a appartenu à des simili-religions, limite sectes aussi. Je ne sais plus les noms, ça m'intéresse pas trop. De toute façon, si ça vous intéresse, vous avez qu'à chercher. Hein. C'est pas. C'est édité. Hein. Ou ça doit être écrit sur Internet. Et donc, bon. Voilà, donc déjà le personnage n'est pas très clair, quoi, tu vois, par rapport à la société, disons. Et bon, bah, il tue ses enfants, il tue sa femme une nuit, comme ça. Et après, il disparaît. Donc, et là, il a deux amis fidèles qui sont Mince, Emmanuel, comment? Bon, Emmanuel et Michel Rétif. Tardieu? Non, pas Tardieu, bah non. Emmanuel, comment? Emmanuel Tonneur et Michel Rétif. Ces deux amis, je vous le dis maintenant, ces deux amis, et ben ils sont morts maintenant. Alors, ils sont pas morts d'une balle dans la tête tirée par l'Ligonnès, non, ils sont morts de maladie. Mais on verra ça peut-être un peu plus tard. En tout cas, ce qui m'intéressait, bon, je vais pas vous raconter tout, tous les trucs qui ont pu se passer, les coïncidences, même si ça n'existe pas vraiment, les coïncidences, les trucs comme ça, c'est plus des erreurs que des coïncidences. Et ma question, vraiment au fond de moi, c'était, mais comment est-ce qu'on peut se substituer à la justice, vraiment? Enfin, tu vois, tu tues ta famille et t'arrives à disparaître. Et mais comment est-ce que c'est possible? Tu vois, enfin, s'il y a, comme je le sais, enfin, comme dans mon truc à moi, dans mon monde intérieur, il y a une force qui régit le monde, il y a une force transcendantale. Lui, il l'appellerait Dieu, par exemple. On peut l'appeler Dieu, tu vois. Je me dis, mais comment est-ce que c'est possible, quoi? Le mec, il tue sa famille, puis hop, il a pas. Ses torts ne seront pas redressés, punis, quoi qu'il en soit, par la société. Je trouve ça vraiment bizarre, quoi. Et le mec, il se disait vraiment qu'il était plus intelligent que les autres. Alors, bah, à se demander quand même, hein. Et donc, réflexion, réflexion, réflexion. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi déjà avant de lire, parce que faut être pas. Le début du bouquin, waouh, c'est fort, hein. Putain, j'ai failli arrêter, quoi. Mais je me suis dit, pour les émissions, c'est vachement bien. Il faut que tu continues. Je me suis forcé. Mais quand t'es lancé, c'est. Et donc, avec la mère qu'il a eue. Parce que je te dis, elle tient une secte, et vraiment, elle, c'est pareil, quoi. Elle extorque encore, on va dire, du fric aux personnes qui se rallient à sa cause, enfin, qui deviennent adeptes, quoi, et elle leur prend tout leur pognon, quoi. Et lui, bah, c'est comme ça, et puis son père, bah, il trompait sa femme, alors lui, il a trompé sa femme avec toutes les nanas qu'il voulait, même s'il n'aimait pas le sexe, hein. Non, parce que ce qui est écrit, son éducation plutôt catho, très stricte, conservatrice, bon, c'est ce qui est. Bon, anyway. Donc je me suis dit qu'en fait, il a trouvé, parce qu'il est quand même pas si con que ça, je pense, il a trouvé, selon moi, comment contourner le châtiment divin. Parce que aujourd'hui, mais c'est ce que je vous dis tout le temps, moi. Tu fais une connerie, ça va t'être rendu. Bon, c'est pas fini, parce qu'on ne sait pas s'il est mort ou non. Ça. Et je me rappelle qu'il avait fait une étude de 20 pages sur la Bible qu'il avait donnée justement à Emmanuel Tonneur, qu'il avait envoyé. Il en parle, Emmanuel Tonneur, lors des interrogatoires. Bon, bref, ça s'arrête là. Et je ne sais pas ce qui est écrit dans ces 20 pages d'études sur la Bible. Mais peut-être était-ce un truc de comment contourner le châtiment divin. Mais je me pose des questions, moi, je suis comme vous, hein, d'accord? Je n'essaie pas de trouver des excuses ni rien. J'essaie de comprendre. Non, mais j'essaie de calmer parce que par une autoconviction de faire le bien en tuant sa famille. Il était sûr de lui que hein, s'il tue sa famille, ils n'auront pas de dette si je m'en vais, donc faut que je les tue. Et puis j'en suis sûr, et puis moi je serai le bien, quoi. Je serai le bien incarné. Dans l'objectif d'une rédemption, quoi. Tu vois? Bah, peut-être que c'est ça. Effacer ses dettes, renoncer à sa vie dépensière, parce qu'à un moment il rencontre une ex, et puis enfin, il fait. Bon, bon, il lui arrive une petite aventure avec, puis elle, c'était une grande, une chef d'entreprise qui réussissait beaucoup dans la vie. Il arrive à lui taxer 50 000 balles. D'ailleurs, c'est la fin, c'est à la fin, que, avant de tuer tout le monde, la fin des années 2000, quoi. Qui lui donne de l'argent, et en fait, le mec, il dépense tout, quoi. Il met pas ça dans son business, qui marcherait jamais, enfin, dans son business, non, il dépense tout. Et en fait, après, bah, fait intervenir les huissiers, etc. Bon. Effacer ses dettes, renoncer à sa vie dépensière pour devenir comme il est, soit à l'égal de chacun. Voir page 8. Alors, voir page 8, qu'est-ce que j'ai écrit page 8? 108. Ouais, alors, je cite. Pour que vous soyez tout à fait tranquille sur le sort de Xavier, sachez qu'il est content de son sort par rapport au... Alors, ça, c'est sa mère qui dit ça sur son fils. Pour que vous soyez tout à fait tranquille que le sort, sur le sort de Xavier, sachez qu'il est content de son sort. Elle ne sait pas où il est, hein. Personne ne sait où il est. C'est un interrogatoire. Mais elle dit au flic, pour que vous soyez tout à fait tranquille sur le sort de Xavier, sachez qu'il est content de son sort par rapport au cauchemar qu'il a quitté et qu'il a vécu si courageusement, a écrit Geneviève, sa mère. Sachez également qu'Agnès, donc c'est la femme de Xavier, Xav, Dupont-Ligonnès qui l'a assassiné, et les enfants se portent bien et s'adaptent bien à leur nouvelle vie. Donc aux morts, quoi. Xavier se rend très 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 bien compte qu'il a reçu de la part du ciel un sérieux coup de main. À se demander. Là, on se demande, quoi. Il pense aussi souvent à sa petite maman qu'il aime tendrement, sans oublier BM, son sauveur. Et BM, c'est Bertram de Verdun, son beau-frère, le mari de Christine, qui est pareil, un noble qui a de l'argent et qui fait partie de la confrérie. Donc, peut-être prise de conscience de ne pas être tombé, Ligonnès, il se dit, peut-être, bon, j'ignore. Peut-être une prise de conscience de ne pas être tombé dans la bonne éducation. Peut-être que, il n'a chuté pas. Et il aurait trouvé donc le pardon divin en tuant toute sa famille. Sa mère. Elle dit dans le truc, dans l'enquête, qu'il serait son fils, elle a été porteuse de la réincarnation, donc en parlant de Ligonnès, de Xavier Dupont de Ligonnès, qu'elle a été porteuse, qu'elle a mis au monde, la réincarnation de Jésus et du diable. Sans dire que c'est Xavier, sans rien dire, quoi. Mais elle le dit. Donc, oui, c'est forcément... Enfin, logiquement, c'est ça, quoi. Et donc là, je me dis, après, quand tu lis tout le bouquin, il pense beaucoup à lui, tu vois. Et donc là, j'ai noté, son égocentrisme le rejette de cette courte étude théologique. Son appât du confort a-t-il changé au point de transformer ses gènes? Il pourrait s'être donné une mort spirituelle pour se donner une liberté, mais ne semble-t-il peut rien faire. Il a renoncé à la société. Si Ligonnès, on a vu le passé qu'il a eu, enfin l'éducation qu'il a pu avoir, recevoir, donc c'est pas le seul, hein, tout le monde ne tue pas sa femme, et c'est, tout le monde ne tue pas sa famille parce qu'il a reçu une mauvaise éducation, une éducation telle, quoi, tu vois, c'est dans ses gènes, tu vois, enfin, je peux pas dire ça, parce que, non, ça peut pas être dans ses gènes non plus, mais bon, mais le mec, il a... Moi, je me dis, mais non, à la fin, c'est pas possible de faire ça, de toute façon. Donc, enfin, si vraiment, il n'est pas mort. Parce que ça se trouve, un jour, il a traversé, il était en cavale, et puis, paf, il s'est fait renverser, comme ça, et puis il a disparu. On ne sait pas du tout. Mais aussi, il faut savoir que... Oh, j'oublie tout ce que j'ai envie de dire. Oui, maintenant, donc au début, quand il prépare son coup un mois à l'avance, il va acheter des paquets de terre et tout pour les enterrer, machin. Donc il prépare son truc, donc ça, il a plein de trucs à faire, quoi, plein de trucs à penser, tac, tac, tac. Il arrive le moment M, paf, paf, ting, pang, pang. Et puis après, bon, c'est fait, ok, je continue, cavale pendant un an, bah, encore aujourd'hui, bien sûr, mais maintenant. Au début, tu sais, ça doit être prenant, mais tu petit, en fait, tu t'éjectes de la société, quoi. Tu n'appartiens plus à la société, quoi. Il ne faut, enfin, ou si tu te fais choper, tu redeviens dans la société et tu es puni. Mais si tu veux pas te faire punir et pas payer toutes tes dettes, etc., etc., tu restes en dehors de la société. Mais qu'est-ce qui mort spirituelle, quoi. T'as plus rien. Et là, je me dis, c'est la mélancolie. Il fait ce qu'il fait, et maintenant, et voilà. La tristesse constante, pour reprendre les mots, éternelle, enfin non, ça n'a rien à voir, mais constante.
Intact.
c'était Worm to Worm par Snake Finger. Et donc, tu vois ce truc sur cette enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès, les trucs que j'essaie de comprendre, comment ça se fait qu'on ne le retrouve pas, s'il s'est auto-convaincu de son crime, ce qui lui permet de ne pas aller en prison, de ne pas être puni par la société, mais le cas sortant étant en dehors de la société, il n'a pas le choix, dans une mélancolie, dans la mélancolie. Mais je me dis maintenant, je tombe par... Bon, à Paris, pareil, d'occasion, Sagesse de la mort. Zeno Bianou. Sagesse de la mort en Orient et en Occident. Et Zeno Bianou, d'ailleurs, j'avais lu un poème de Zeno Bianou lors du décès d'un de mes cousins. Enfin, toujours par rapport à la mort, quoi, tu vois. Qui est très très fort. Je crois que c'était... Alors, je sais plus dans quoi c'était. Waouh, c'était dans... Ah oui, Satori Express, je crois. Satori Express. Et il en reparle du Satori un peu plus loin, mais bon. Donc, il parle du judaïsme, du christianisme, hindouisme, islam. Et il parle du Zohar. Récemment, on en a parlé dans les Barges Russes, qui enseigne en effet la préexistence des âmes depuis le commencement de la création. Depuis le jour où il est arrivé à Dieu de créer le monde, et même avant qu'il fût réellement créé, toutes les âmes des justes étaient cachées dans l'idée divine. Bon, là, des justes. Donc, on ne parle pas de... On ne parle pas de Ligonnès, mais bon... est-ce qu'elle était juste quand elle est née? Est-ce qu'elle avait déjà quelque chose? Tiens, j'ai un bouquin de Winnicott qui parle de ça, de l'enfance. Ça s'appelle « La nature humaine », qui dit, dans son chapitre « L'expérience de la naissance », « Pris par l'autre bout, c'est l'étude des stades très précoces du développement émotionnel individuel qui peut mettre sur la voie de la question de la santé mentale considérée sous l'angle de l'absence de psychose. Il n'y a donc pas d'étude plus importante que celle de l'individu, au début, quand il est intimement pris dans l'environnement. » Là se rencontrent les nombreuses disciplines de l'investigation scientifique générale, du diagnostic et de la pratique psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi que la philosophie, auxquelles nous devons le courage de procéder pas à pas vers une meilleure compréhension de la nature humaine. Donc je trouve pas d'excuses pour les assassins. Non. Non, pas du tout. Je ne suis pas coupable. Donc j'ai pas, je aucun sentiment de cette façon-là. À protéger, à vous, non. Je suis pas un avocat commis d'office, hein, qui veut faire sortir les vandales. Mais bon. Bon, je recommence. Je continue avec le Zohar. Mais c'est aussi bon pour tout le monde, quoi. Je veux dire, je sais pas trouver les assassins. J'essaie au contraire d'aider ceux qui ne sont pas assassins et les autres, tout le monde. D'aider même les parents, peut-être en même plus en particulier, que ça se fait dès l'enfance. Dès l'enfance, si ton enfant, tu n'as pas envie que ce soit un assassin, il faut tout de suite un assassin. Je vais à l'extrême. Je caricature, un criminel, disons, plus largement. Ou, bon, sans forcément. Une personne bien, juste, il faut l'accompagner dès le début, quoi. C'est ça que je dis. Après, il n'y a pas que comme ça qu'on y arrive aussi, hein, bien sûr. Donc, il reparle du Zohar, toujours par rapport au judaïsme. Transmigration des âmes. Les âmes qui, au cours de leur passage sur Terre, ont négligé de cultiver la perfection, doivent faire l'expérience d'une incarnation dans un autre corps et même réitérer cette expérience. Ouais. Ouais, ça, c'est... Ok, pour le judaïsme. Ensuite, le christianisme. La résurrection maintenant. Et alors là, j'ai... Le mystère des mystères. Le Seigneur véritablement est véritablement mort et ressuscité, point d'interrogation. Là, il est question, les apôtres sont témoins non par ce qu'ils croient, mais par ce qu'ils voient. Et là, je vais revenir aux deux copains de XDDL, Emmanuel Teneur et Michel Rétif, qui apparemment n'étaient pas des apôtres, mais des. Tu vois, dans ce qui est écrit dans l'enquête, ils cherchaient un. Enfin, pour eux, XDDL, c'était un mec bien, quoi. Un mec bien, un modèle, tu vois. Et Michel Rétif, après, bon, il y a le XDDL qui disparaît, ils savent pas où il est, il leur prêtait de l'argent, tout ça, mais c'était un super ami, donc il n'y avait pas d'argent, pas de. Il n'y avait pas tout ça en jeu, quoi, dans leur relation. Et même les femmes. Il partageait sa femme, XDDL, avec Rétif. Bon, ça, c'est un autre. Bah, c'est dit dans l'enquête, donc ça peut être important. Bon, et là, enfin, deux, trois fois seulement. Mais trois fois, c'est déjà trois de trop. Et puis. Mais, tu vois, il buvait beaucoup d'alcool. Tous les deux. Énormément, énormément d'alcool. Et Rétif. Bah, il perd tout. Il perd son travail. C'est un commercial, comme XDDL et comme Teneur. Et puis, bah, il perd sa femme, il perd son boulot, il perd tout. Il se suicide. Et là, les flics, ils disent, ils sont sur le cul, sur le cul, sur le cul. C'est écrit trois fois. C'est vraiment dans le. Ils n'en reviennent pas, quoi. Comment est-ce qu'un tueur, le mec, il extermine, enfin, il tue sa famille, il s'évanouit dans la nature, et il y a des mecs qui l'aiment, quoi. Cet truc, ah, putain, wow. Tu te demandes, mais comment c'est possible? Et tu. Faut réfléchir. Bon, alors on va pas réfléchir tout de suite. Vous allez le faire tout seul si vous voulez. Et l'autre, Emmanuel Teneur, alors lui, c'est pas. Lui, c'est déjà un peu un alcoolo avant. Mais encore plus après la disparition de son ami. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Ah oui, cirrhose du foie. Emmanuel est victime d'une crise cardiaque consécutive à une embolie pulmonaire. Il meurt sur son lit d'hôpital après presque 9 ans de questions sans réponse. Xavier Ligonès a tué Emmanuel Teneur, il a aussi tué Michel Rétif et il a détruit tous ceux qui ont fait partie de sa vie. Et là, les flics, quand je vous dis, on est sur le cul, on est sur le cul, on est sur le cul. C'est la dernière page. Retrouvera-t-on un jour Xavier Dupont de Ligonès, mort ou vivant? C'est vrai, il y aurait la grande question, quoi. Et je me dis, en fait, c'est peut-être ça aussi qui à Ligonnès qui lui permet de survivre. De. Attends, j'avais. Voilà. Voilà. Pour alerter sa vigilance. Enfin, peut-être qu'il. Enfin, tu vois, des questions, on se pose des questions. Mais bon, après, je vous dis, le mec, il était pas torturé parce qu'il avait l'air apparemment comme si rien s'était passé, quoi. Mais qu'il soit torturé ou non, il est obligé, s'il veut pas se faire choper maintenant, de vivre dans la mélancolie. Comme un autre livre que j'ai vu d'Aristote, là, L'homme de génie et la mélancolie. Parce que l'homme de génie, c'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, mais. Enfin, je ne sais pas ce qu'il entend Aristote dans son bouquin, mais la mélancolie. Donc les apôtres, revenons au truc sur le christianisme. Ils sont témoins non parce qu'ils croient, mais parce qu'ils voient. Mais que voyaient-ils? Ils disent dans le texte que je vous dis des amis bien nous, et puis après, qu'est-ce qu'ils voyaient, quoi, les amis de. Bon, c'était pas Dieu ni des apôtres, mais c'est métaphysique tout ça. L'eschatologie temporelle semble ici céder la place à une eschatologie vécue, réalisée. La prédication de Jésus y obéit au signe du déjà-là. Si ces derniers temps sont déjà commencés, il convient d'être prêt à chaque instant, car ce jour, cette heure, nul ne les connaît. Ainsi, la vie de la mort, en fait. Ainsi, la vie au présent de la foi n'est autre qu'une veille infinie, intimement sensible à l'insistance de l'appel. Et je me suis dit, mais prêt à être quoi? Prêt à quoi? Eh bien, prêt à être seul. C'est à ça qu'il faut se préparer. Mais c'est aussi prêt à être seul dans la vie. Il faut être prêt à être seul, que ce soit dans la mort ou dans la vie. Plus loin donc. La foi en Jésus est d'ores et déjà résurrection. Adhérer au Christ, c'est franchir les limites de la mort et passer dès à présent dans l'espace d'une vie définitive, lieu de l'existence véritable. Christ mène le temps à sa fin en le dilatant dans l'instant de l'amour. Mais comment lier cette résurrection présente à la résurrection des morts? Et alors là, le mec qui disparaît, quoi. Je ne compare pas du tout. Oh là, non, vous mélangez pas tout ce que je dis. Hein. Non, je compare à rien du tout. J'essaie de comprendre, comme je ne le dirai jamais. Compare ce qui est comparable. Bah oui, mais le Christ, toute la religion, c'est métaphysique. Hein. Ça, faut que tu réfléchisses aussi un peu de ton côté. Oui, le Christ, c'est religieux. C'est pas Jésus. Le Jésus, il s'est fait trucider, il s'est fait, pas trucider, mais il s'est fait tuer, il s'est fait sur la croix, parce qu'il demandait, il disait aux gens qu'il fallait se poser des questions. Voilà, une première chose, c'est ça. Pendant 2-3 siècles, c'était ça. Et après, les religions sont arrivées, le Nouveau Testament et compagnie. Donc, la résurrection apparaît ici comme un renversement du mouvement même du monde, à rebours du temps et du destin, comme si Dieu réanimait l'univers d'une vie étrangère à la chronologie, d'une vie qui ne connaîtrait plus l'entropie. En quelque sorte, la résurrection de Jésus constitue une reprise de la création, un redéploiement du vivant, une seconde genèse. Cette vie vierge de mort, en ce qu'elle transcende les conditionnements de l'espace-temps, échappe naturellement à la représentation. Infigurable, elle peut cependant s'approcher par négation successive par le truchement d'une naissance. La résurrection n'est pas d'ordre moléculaire, on passe avec elle d'une modalité où l'homme est contenu dans le monde à une modalité nouvelle où il contient le monde. Les morts croissent pour sa joie. Pour l'amour. L'amour, ça, en fait. Les morts croissent pour sa joie. Pour la joie. Pour l'évolution, vu qu'on est réincarné dans la religion chrétienne. Donc, ouais. Il y a plein de dons. Aujourd'hui même, nous préparons notre mort. Aujourd'hui même, nous plongeons dans le mystère de la passion. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Passage à la mort, passage à la vie. Maintenant, la mort pour l'islam. Amour et mort à soi-même. Insistant sur la nécessité d'une mort à l'ego avant la mort physique. Les soufis, dont l'objectif n'est autre que la connaissance expérimentale des vérités divines, se situent déjà, comme par une anticipation continue, dans l'éternité dévolue à l'autre monde. Être un soufi signifie que Dieu te fait mourir à toi-même pour te faire vivre en lui. Incessante absence de soi pour s'ouvrir à la présence qu'un mystique formule au plus vif. Quand j'ai contemplé son être, j'ai vu mon néant. Quand j'ai contemplé mon néant, j'ai vu son être. Mourez avant que de mourir. Ça, c'était la parole du prophète. Mourez avant que de mourir. C'est-à-dire, vis, quoi. Parce que là, on est en train de mourir. Hein. Plus le temps il passe, plus on meurt. C'est en lisant l'hindouisme, la ronde des morts et des naissances, que l'esprit torturé de Xavier Dupont de Ligonnès trouve, selon moi, peut trouver des réponses. Mais bah, quand je vous le dis, je vous le répète, hein, je cherche pas à trouver d'excuses, hein, mais à comprendre comment. Comment c'est possible? Alors, pas pour faire pareil non plus, hein, parce que bon, on est. C'est pas ça que. Chacun a son délire, hein, chacun fait son truc. Hein, mais... Donc, à quelle secrète équation obéit cette transmigration des âmes? Pourquoi tel corps et non tel autre? En observant le processus même de la causalité. S'intégrer dans une série illimitée de causes et d'effets, le karma, ou loi de causalité universelle selon laquelle chaque réincarnation est inéluctable, engendrée par le poids des actes qu'accomplit l'individu dans chacune de ses existences. Et là, en fait, le karma. Quand je vous disais ces deux potes-là, Teneur et Rétif, ils voyaient en Ligonnès un mec qui a du karma, quoi. C'était le chef, quoi, tu vois. Et donc là, moi j'ai annoté, en fait, XDDL, il était peut-être rendu au bout d'un cycle. Tu vois, ce qui lui permettait de faire plus de. Enfin, de comprendre. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas. Mais en fait, je vous le dis parce que j'en ai marre d'y penser, quoi, aussi. Ça, j'y penserai plus après. Puis bon, après vous, on fout. Non, mais bon, je m'en fous pas, mais vous avez qu'à éteindre la radio maintenant. Alors, aimer, c'est mourir, toujours en hindouisme. Est-il mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça sert pas qu'à ça. Quoi. Là, c'est une ligne rouge, quoi, conductrice, l'enquête, qui est intéressante. Est-il possible d'habiter entièrement la vie, de l'habiter jusqu'au bout, tant et si bien qu'elle s'ouvre à la mort? Pour Krishnamurti, la leçon de vie se double toujours d'une méditation sur la mort. Nul n'apprend à naître sans apprendre à mourir, sans apprendre à entrer dans la demeure de la mort de son vivant. Paf. Les feux brûlants à la surface de l'existence passent, s'éteignent, laissant souffrance, cendre et souvenir. Nous leur donnons le nom de vie, mais ils ne sont point la vie. Ils sont décrépitude, usure. C'est le feu de création destructrice qui est la vie. Exactement. C'est quand tu bouffes, quoi, tu y vas. En lui n'est ni commencement, ni fin, ni hier, ni lendemain. La vie. Consentir à cette mort dans la vie, c'est sortir de la continuité où notre identité s'enlise. C'est abandonner la durée rêvée de l'immortalité pour l'immédiateté réelle et de l'éternité. Donc tu vois, il était peut-être rendu au bout d'un cycle. Et il s'est dit, bon, il c'était un catholique, je ne sais pas ce qu'il connaissait de l'hindouisme, mais après, là, ça concerne les purs, quoi. Les purs, c'est pareil, c'est métaphysique, enfin, ça concerne pas les criminels, tu vois. Aux criminels, ça n'arrive pas. Mais ça explique. Ah, j'espère que ça explique.
Ah, excuse-moi, Johnny, mais là, tu te trompes. Ça s'adresse, justement, aux criminels pour passer à autre chose, et c'est justement je t'écoute depuis le début, c'est ça que justement peut-être Ligonnès a trouvé. Il a trouvé une rédemption intérieure qu'il fait, bon, qui ne le pardonne pas, mais qui le pardonne, si on veut, à le laisser libre, mais en extérieur de tout le reste. Donc, de son point de vue, toi, tu dis que c'est comment t'as dit, il est pas bien, machin. Mais pour lui, c'est il se dit pas ça. Pour lui, le tragique, il en a pas de tragique, quoi. Tu vois, il est résolu à ce qu'il a fait. C'est peut-être ça aussi. Et surtout, là, je pense que tu t'es planté. Hein, ça concerne tout le monde. Hein. Ça concerne les purs et ceux qui sont pas purs, et même plus ceux qui sont pas purs, comme tu dis, au point de vue de la religion, telle qu'elle dit, personne n'est pur, de toute façon. Je crois que tu as raison, Elmos. Merci.
Inviter la mort pendant la vie. Mourir à tout ce que nous avons appris, c'est apprendre enfin. Mourir à toute chose et à chaque jour ressuscité. Tant que nous aurons peur de la vie, nous aurons peur de la mort. C'est pas mal, ça. Tant que nous aurons peur de la vie, nous aurons peur de la mort. Et là, en fait, tu vois, Ligonès, bon, il avait la cinquantaine, mais avant toute sa vie, comme je disais, il était endetté, il prenait du fric à tout le monde, donc la vie, pour lui, ça lui faisait pas peur, quoi. Il allait aux États-Unis, sa femme, elle hérite de 350 000 euros, parce que c'est, je sais pas d'où, de ses parents, forcément. Et puis, ils vont vivre un an en Floride, à l'hôtel. Tu vois, c'est taré, quoi. Et bah, il dépense tout son fric, quoi. Donc, puis tout ça, toute sa vie, jusqu'au moment final, quoi. Et donc là, il n'avait pas peur de la vie. Donc, il n'avait pas peur de la mort. Mais quand la fille, son ex, elle lui prête 50 000 balles et puis elle lui envoie les huissiers, ah là, il commence à se dire, ah ouais, la vie, je commence à avoir les boules, quoi. Donc, il commence à avoir peur de la mort. Donc, il essaie de surmonter cette peur, peut-être. Et il a essayé de se libérer du connu, comme il écrit. C'est mourir, et alors on vit. Mais on vit, si c'est ce qu'il a fait, si c'est ce qu'il a suivi, il est dans la mélancolie. Il est triste. Ben, il est triste parce que c'est de sa faute, en fait. Tout est de sa faute. À lui. Mais il s'aime tellement, il est tellement égocentrique qu'il est ailleurs. Il est, ou il est mort, hein, ou il est ailleurs, et il est dans un état... Il dit, bah maintenant, il dépense plus des 1000 et des 100 quand il va à l'hôtel ou quand il va bouffer au resto, mais il a qu'un euro, quoi. Ça se trouve, il est sous un pont d'une ville, quoi, tu vois. Ben bon. Il n'est pas en prison, il est content. Ou il n'est pas... Il passe pas sous... Enfin, je vous dis... Et là... C'était dans l'illusion, quoi. Il vivait dans l'illusion. Maintenant, on est dans le bouddhisme tibétain. L'éclatement de l'être d'occasion, comme disent les maîtres, donc de l'être comme tout le monde, quoi, de l'être banal. Tu vois ? L'éclatement de cet être banal, d'être d'occasion, il ne s'agit pas d'attendre un état, fût-il sublime, que de susciter la reconnaissance de ce que nous sommes, lumière et vacuité. Donc, maybe, peut-être, il s'est dit, ah mais ouais en fait, parce qu'il date de 70 ce texte, ça se trouve il l'a lu. Ah mais ouais, carrément. Donc moi je veux plus être d'occasion, je veux atteindre un état... qui suscite la reconnaissance des gens. Je veux devenir ce que j'ai toujours voulu, quoi. Lumière avec... Sauf que non, ça marche pas du tout comme ça, quoi. C'est pas en tuant les gens que tu deviens lumière. La preuve, là... Enfin, y a pas de lumière, quoi. Et alors, les dernières lignes, j'ai annoté plein de trucs. Où l'on s'illimite par-delà la vie et la mort, on s'illimite dans l'évidence du réel. C'est ça qu'il faut faire. C'est s'illimiter par-delà la vie et la mort, métaphysiquement. Aller au-delà, dépasser les étoiles, dépasser les frontières de l'univers. Image. qui est irréalisable. Prise en compte de la désillusion du monde et de la matérialité de la mort, pour revenir à l'article de presse lu en début d'émission. Cette émission a eu pour moi la préparation d'une bombe. C'était vraiment...
Il y a Jet FM sur les ondes que tu peux écouter. Une fréquence, les horaires qui font du bruit. Avec DJ Chronique et des émissions. Si tu penses pouvoir écouter, je te prête ma radio. Des gens d'auditeurs qui aiment bien Helmut Schwarz. Il te donnera tout ce que tu veux si tu l'écoutes bien. Son émission avec Johnny est tous les jours. Elle s'appelle La Barge Russe. Elle est à 14h30. The Russian Fortune, le mercredi. Si tu penses que ça peut t'aller, c'est cool. Then I guess it should.